Chut, ça commence.
Il fallait y penser. Tenir sa droite en marche arrière, c'est rester à gauche et c'est aussi, en somme, avoir son avenir derrière toi.
C'est du tarpin sur la planche. Exploration sociale et sonore.
Laissez-moi. Ben, je comprends.
C'est un problème qu'on a anticipé depuis très longtemps, mais la mairie n'a rien fait.
C'est la faute à Patrick Mouchy. C'est la faute à tous ces chefs du Parti Socialiste.
Allez, Marcel, on va observer la population française.
Salut les Jojoba, vous êtes bien à l'écoute du Tarpin sur la planche qui revient sur Radio Grenouille et Radio Zinzine après un été bien chargé au soleil.
Et oui, et des vacances qui se sont éternisées pour certains en tout cas. On espère que vous ne nous avez pas attendus en septembre.
Quoi qu'il en soit, ces vacances étaient pleines de péripéties, mais aussi de joie. Joie comme J, car nous sommes dans l'émission en J. J comme Jean Foutre, qui sera le thème de cette émission. Alors, je vais vous donner la définition, que vous ne connaissez peut-être pas, issue du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Substantif masculin invariable, vulgaire, péjoratif, qui signifie « avec une valeur injurieuse, marque de mépris envers quelqu'un qui est présenté comme incapable, indigne ou moralement condamnable ». Synonyme de foutriquer ou propre à rien.
Thomas, attends, je t'interromps tout de suite. Petit moyen technique, les règles du tarpin changent en cette rentrée. Vous te retrouverez chaque mois l'abécédaire marseillais du tarpin sur la planche, mais désormais, celui-ci sera radio-guidé d'une thématique fil rouge sur toute l'émission.
En tout Jean Foutre que nous sommes, bien entendu.
Autre nouveauté, nous avons le grand plaisir d'accueillir Adrien, qui rejoint notre équipe de Joyeux Lyon. Bienvenue à toi.
Senang berada diantara. Bon, chacun sait que ça signifie que je suis ravi d'être parmi vous en Indonésien.
Au menu de ce mois-ci, nous avons ramené des pépites de nos pérégrinations estivales. Tout d'abord, Pierre va nous faire déguster un jus de tomate labellisé 100% région sud. Ensuite, Chloé nous emmènera au contact d'oiseaux bien de chez nous, au rire jaune.
Mais non, pas jaune.
Mais enfin...
C'est le bec qui est jaune.
Mais non, enfin, c'est le vert qui est jaune.
Avant de se désaltérer, Pierre nous fera grimper à Briançon pour écouter une histoire de destin suivie d'une dégustation de chocolat en refuge.
Et c'était avec Claire aussi, cette grimpette à Briançon. Puis Thomas nous fera prendre la direction de Barcelone pour s'enquiller quelques shots.
Et pour cette saison 2 du Tarpin sur la planche, Claire nous fera carburer au digestif radioactif de Bure.
De quoi auriez-vous l'air, hein? De quoi auriez-vous l'air? Bah moi je vais vous le dire, vous auriez l'air de gens foutre! De gens foutre! Voilà! De quoi vous auriez l'air?
Pour commencer ce tarpin sur la planche, nous avons répondu à un appel d'offres pour faire la promotion de la nouvelle région labellisée Sud. Pierre a beaucoup travaillé, mais malheureusement, ses efforts n'ont pas été récompensés.
Et oui Thomas, malgré un casting de rêve pour répondre à ce rêve de Renaud Muselier, que cette région s'appelle Sud, et pour la mettre en valeur, comme il se doit, dans toutes ses qualités. Donc, il y a Renaud Muselier, président de la région, Michel Larocque, actrice, Pierre Voltier, champion olympique de snowboard, Alexandre Mazia, chef étoilé, Julie Gauthier, réalisatrice, apnéiste et danseuse, Guillaume Néry, champion du monde d'apnée, Rudy Ricciotti, architecte, Dunia Coulsons, actrice. J'ai du mal à prononcer ce nom-là, mais peu importe, vous allez voir, elle a du talent.
Et n'oublions pas, pour la diversité,
la chanteuse Iman, l'acteur Kadmirad et les supporters de la marine.
Authentique et chaleureuse, naturelle et sauvage,
plus de 1000 hectares ont d'ores et déjà brûlé,
riche d'une culture millénaire.
Au premier tour, il était devant
ce pays,
14 points par la candidate FN.
La Méditerranée est mon jardin,
mais les eaux restent polluées.
La Provence de mon enfance,
PCB,
une terre où l'on joue, où l'on rit,
métaux lourds,
où l'on danse,
et autres résidus.
C'est ici, c'est dans le sud.
C'est ici que je suis né, sur le toit du monde, dans ce paysage d'exception.
Malgré les conditions difficiles, les migrants sont de plus en plus nombreux à passer par ici.
C'est ici, c'est dans le sud.
Des vers et des chenilles dans le riz et les choux destinés aux enfants.
Ma cuisine se nourrit du contraste entre exotisme et tradition. Cette étoile, c'est le sud.
Plonger en apnée, c'est respecter les fonds marins.
Parce que la Grande Bleue prendra encore des allures de mer Noire.
Pour que sa biodiversité soit préservée.
Derrière le paradis de ces eaux bleues, un concentré de pollution.
C'est ici.
C'est dans le sud.
L'architecture doit être l'emporté de la poésie, le combat nécessaire.
On appartient à la lumière.
L'urbanisation intense de la Côte d'Azur empêche le sol d'absorber l'eau de pluie.
Nécessité première, refuser l'exil de la beauté.
Le sud, il est là.
Le tableau que nous offre la nature.
Marseille est aussi devenue la ville la plus polluée.
Nous sommes 800 000 jeunes, prêts à relever tous les défis, ici et maintenant.
Se débrouiller, c'est un peu le maître mot de ces représentants de la génération galère.
Avant d'être comédien, j'étais garçon de café, battleur, et je n'oublie rien. Surtout pas d'où je viens.
Du sud, de Puting.
Vespouilla de tout. Plus mai d'où nous nost. Vespouilla de tout. Faisons que la terre est anakele et que la viola. Moi, il est montagne. Moi, il est montagne. Reste un drèche.
Chez nous, c'est pas sud de France. Chez nous, c'est nord de Méditerranée. Ouais, chez nous, c'est pas sud de France. Chez nous, c'est nord de Méditerranée.
Ouais, au nord de mon sud, sale ça chime sec, ça smoke sec. Ça s'en fout plein la tête, ça castagne en discothèque. La culture de la fête dans les quartiers, les villages. Rassemble de partout, ça j'écoute de tous les âges. Y'en a qui trouvent ça chouette de danser la country. Un festival de Yankee au cœur de l'Occitanie. Le rêve américain, venez voir comment on le vit. Quand dans les balletti, ça danse la bourrée en baggy. Les baskets, fatlassées, casquettes sur la tête. Ouais, des clichés réac du costume de la bérette. Des b-boys, des babos, maîtrisez vive le folklore. Là c'est fort, ça endort le Père Noël et ses consorts. Les trades qui puent la mort. Les militants du gros port. Les chauvins nés quelque part. Les branleurs d'étendards bleu, blanc, rouge, sang et or. Quelle erreur. L'image est truquée, idéalisée, convoitée. Les pays d'or font rêver. Des métropoles ensoleillées à la tranquillité rurale. Revoyons les données, cramant la carte postale. Rivières polluées, littoral défiguré. Les taux de pauvreté sont parmi les plus élevés. Y'a autant de chômeurs que dans le Nord, pas de Calais. Mais pas de film à succès pour fashioniser. La langue des papés, les différents parlers. Les traditions ancestrales de solidarité. D'accueil, de partage, de convivialité. D'amour, de création, de respect des diversités. Le midi comme on dit n'a pas de conscience historique. Trop vieille colonie sacrifiée pour la république. Lobotomisée par la nation étatique et unique. Il est temps qu'on vous explique que chez nous c'est pas sud de France. Chez nous, c'est nord de Méditerranée. Ouais, chez nous, c'est pas sud de France. Chez nous, c'est nord de Méditerranée. Ouais, chez nous, c'est pas sud de France. Chez nous, c'est nord de Méditerranée. Ouais, chez nous, c'est pas sud de France. Chez nous, c'est nord de Méditerranée.
Méditerranée. Danse au rythme épicé. Méditerranée.
Bonjour Laetitia.
Bonjour Adrien. Bienvenue dans Tarpin d'amis.
Bon Laetitia, dites-nous duquel de nos amis nous allons parler aujourd'hui.
Eh bien aujourd'hui, c'est Chloé qui nous emmène à la rencontre d'un oiseau emblématique de notre cher pays marseillais.
Allez, prenons notre envol tous ensemble. C'est parti.
Le Larus Michaelis. On embarque sur les îles du Frioul pour parler de l'iconique gabion marseillais.
Je suis Mathieu Thévenet. Je suis le coordinateur de l'initiative pour les petites îles de Méditerranée, qui est une ONG qui travaille pour la protection des îles, des petits espaces insulaires en Méditerranée, principalement à l'ouest du bassin. Et notre but, c'est que ces espaces soient mieux gérés, que les écosystèmes soient en bonne santé. Moi, j'aime bien le gabion, j'aime bien le goéland coffé parce qu'il est très méditerranéen, parce qu'il est très lié à nos activités. C'est une espèce qui est un peu en marge des villes, en marge des îles. Et du coup, il est intéressant de l'étudier parce qu'il nous donne quelques indications sur la façon dont on gère nos villes, nos territoires urbains. Et c'est pour ça que dans l'inconscient collectif des Marseillais, le goéland coffé a bénéficie d'une mauvaise presse, ou en tout cas est très liée aux poubelles, à certains aspects de la ville qui ne sont pas des plus reluisants, quoi.
Donc je m'appelle Alemant, j'ai été longtemps conservateur de la réserve naturelle de l'archipel de Rioux. Aujourd'hui, je suis responsable de secteur au parc national des Calanques et je m'occupe du secteur littoral ouest et archipel, donc les archipels et le milieu marin du côté de Marseille. C'est un oiseau qui a toujours vécu sur le littoral, mais qui vivait de ce qu'il pouvait trouver au niveau du littoral marin, donc de ceux qui pêchaient, ceux qui trouvaient sur les grèves. Et depuis les années 60, avec l'augmentation de la société de consommation, avec l'augmentation du gaspillage aussi, c'est une espèce qui a trouvé de quoi s'alimenter facilement dans nos décharges ou dans nos poubelles, et donc avec une population qui a augmenté considérablement et dont la croissance suit sur les îles de Marseille la croissance de la société de consommation et de la société de gaspillage. Et il y a également un deuxième phénomène qu'on observe depuis les années 90, la colonisation du milieu urbain. Donc il y a de plus en plus d'oiseaux qui se sont déplacés directement chez le producteur. Et les oiseaux qui naissent sur les toits vont avoir tendance à revenir nicher sur les toits. Pourquoi Marseille ? Parce qu'on a des grandes îles, les Goélands, pour se reproduire, ont besoin d'être sur le littoral. Sur Marseille, les îles de Marseille ont la particularité d'être très peu végétalisées. Donc d'offrir des biotopes de reproduction et un site idéal pour l'accueil des colonies de reproduction. Et surtout avec des restaurants à proximité, avec ces décharges à ciel ouvert et tout ce gaspillage de ressources alimentaires qu'on peut trouver aux environs d'une grande métropole. Donc il y avait à la fois le gîte et le couvert. C'est le petit coussin qui est au pied de l'adulte. Tu le vois ou pas?
Non, je vois pas.
Il a ses pieds, il piaille légèrement. C'est un oiseau qui a quelques jours.
Oui.
Attends, là, tu peux te mettre devant, mettre ton micro, tu viens de donner des plaintifs. La mission des personnes qui travaillent, qui gèrent des espaces naturels, c'est d'arriver à garantir la conservation du patrimoine naturel. Ça veut dire des espèces rares qui nichent sur ces... On a ici énormément d'espèces végétales protégées. On a des oiseaux marins pélagiques, c'est-à-dire les puffins, les pétrels, qui sont des oiseaux marins qui vivent au large et qui nichent sur ces îles, mais dans des terriers qu'on ne verra jamais dans la journée. Ils viennent que la nuit pour se reproduire. On a des écosystèmes qui paraissent un peu pelés, ces îles qui paraissent... très dégarnis en termes de végétation, mais sur lesquels on a un patrimoine végétal important. Et les goélands, avec l'augmentation des populations qu'on a assisté entre les années 70 et les années 2000, ont été à l'origine d'un déséquilibre important. Les oiseaux font plusieurs voyages par jour pour nourrir leurs poussins, et donc apportent de la matière organique. Cette matière organique va passer dans le sol, va enrichir le sol en nitrate, en phosphate, et cet enrichissement du sol, ça fonctionne un peu comme un engrais, ça va favoriser des espèces invasives ou des plantes annuelles comme les orties, les chardons. Et ces plantes vont se développer au détriment de la flore locale. Et donc les goélands ont été à l'origine d'un déséquilibre écologique à l'échelle de l'ensemble des îles, surtout sur l'archipel de Rioux, où certaines îles comme l'île Plane ont vu leur végétation en quelques décennies complètement transformée par la présence des goélands. Et ça a permis d'augmenter de façon indirecte les ressources alimentaires pour les rats ou les lapins qui avaient été introduits sur les îles. Et de là, avec cette augmentation des populations de lapins et des populations de rats, on s'est retrouvé en bout de chaîne avec une augmentation de la prédation sur les colonies depuis fin cendré, sur les poussins au fond des terriers. Donc ça illustre bien comment on a un ensemble où à l'origine on part d'un problème anthropique, le problème du gaspillage des ressources alimentaires, et en bout de chaîne, on se retrouve avec un impact sur des oiseaux qui vivent au large, qui viennent à terre que pour nicher sur quelques îles de Méditerranée, qui nichent dans des terriers, qui sont cachés, qui sont dissimulés, que la plupart des Marseillais ne verront jamais, Il n'y a que les marins qui peuvent les voir au large, ce sont les albatros de Méditerranée. Et donc, on part d'un problème de gaspillage de ressources alimentaires et en bout de chaîne, on se retrouve avec un impact sur des oiseaux qui viennent du grand large et qui ont eu un contact avec les hommes.
Moi, je trouve que le goéland est une espèce intéressante parce que effectivement, elle amène le gestionnaire d'espace insulaire à se poser des questions sur elle, en fait. C'est-à-dire que cet apport organique dont parlait Alain amène à s'interroger sur est-ce qu'on doit favoriser ou pas l'arrivée d'une espèce qui est à la base quand même sauvage, qui est le goéland. C'est pour ça qu'il a ce statut un petit peu particulier, à la fois protégé, à la fois régulable. C'est une espèce qui est typique du bassin méditerranéen et qui, quand on se donne la peine de la regarder, on peut être vu de manière beaucoup plus positive qu'on s'autorise à voir. Il est en train de se faire houspiller.
Voilà.
Là, on voit un visiteur de l'île de Frioul qui s'est fait littéralement virer alors qu'il était en train de cheminer au-delà du sentier par un goéland qui devait être en train de défendre un de ses nids, là, enfin son nid.
En droit français, donc, il y a une liste des espèces qui sont protégées. Et il y a deux espèces qui ont un statut un peu particulier, c'est le goéland et le cormoran, qui sont des espèces protégées, mais dont la régulation est soumise à autorisation. Ici, sur les îles, pendant la période de croissance des populations, ce qu'on pratiquait, c'était de la stérilisation des pontes. On mettait de l'huile sur les œufs, ce qui fait que les oiseaux ne faisaient pas de seconde ponte, parce que si on enlève les œufs, ils repondent de suite. Par contre, les œufs étant toujours là, ils restent sur le nid, ils dépassent la durée normalement d'incubation. Et ensuite, ils ne font pas de deuxième ponte. Et le fait qu'il n'y ait pas de poussins, ça a évité justement les transports de tonnes de matière organique depuis les décharges jusqu'aux îles. Et donc, c'était le seul moyen qu'on avait trouvé pour essayer de freiner les dérèglements des écosystèmes dus à l'apport de matière organique des décharges à ciel ouvert. Je pense que les rats sont largement plus abondants que les goélands, mais ils sont beaucoup plus discrets, ils sont beaucoup plus cachés. Et voilà, il y a beaucoup d'espèces à côté desquelles on vit sans s'en inquiéter et qui sont beaucoup plus nombreuses parce qu'elles sont très discrètes, elles ne font pas trop de bruit. Il faut apprendre à les observer pour pouvoir les observer. Il se trouve que le goéland, c'est un peu une grande gueule. Et donc, il est entendu partout, il est vu partout.
Siffle aussi. sur la planche.
Sur la planche.
Du tarpin sur la planche. À écouter avec ses oreilles. Exploration sociale et sonore. Et sonore.
Laetitia, j'ai comme l'impression qu'on a oublié quelque chose.
Ah
une
oui.
autre espèce protégée.
Ah oui, c'est vrai. Ce serait pas clair, notre reporter. Il faut le dire qu'il s'est bien enterré au fin fond de la Meuse.
À Bure, je crois. Enfin, ce sera pour la fin de l'émission, je crois. Avant, il est allé se balader dans les Alpes. Enfin, on sait pas très bien pourquoi, il va peut-être nous l'expliquer.
Oui, je vais vous expliquer. C'est effectivement dans les Alpes, du côté de Briançon, qu'avec Pierre, nous avons rencontré Destin. Destin vient du Cameroun, un pays où une petite guerre civile fait rage et où le président Paul Biya sera très certainement réélu dans quelques jours pour un 7e mandat. Pour arriver à Briançon, Destin a traversé le Sahel, la Libye, la Méditerranée. Puis, entre l'Italie et la France, il a dû traverser les cols enneigés des Alpes. On l'écoute tout de suite nous raconter ce dernier morceau de son périple.
Destin, tu viens du Cameroun. J'étais fier d'arriver en Europe, puisque vu les problèmes qu'on a eu à traverser du Cameroun jusqu'en Europe, passant par la Libye et tout, la Méditerranée, le désert, on était très fiers de l'accueil au niveau de l'Italie. Mais il y a eu des choses que nous aimerons que les gens essayent de réfléchir concernant nos droits. Ça me fait très mal que j'arrive en France, on me dit non, tu es en possession du Dublin, il faudrait que tu rentres en Italie. Or qu'en fait, quand nous sommes arrivés en Italie, il fallait qu'il y ait un comité sur place qui devait nous recenser par rapport à nos droits, nous faire comprendre que pour ceux qui veulent aller ailleurs, ils peuvent laisser ce problème de signature. Mais ce n'est pas du tout ça. Quand tu arrives, ils te font croire que c'est une obligation. C'est même pour ton bien. Même pas que c'est une obligation, c'est pour ton bien.
Ah, c'est ce qu'on vous a raconté.
Oui, oui.
D'accord.
Étant sur place, on te dit, il faut prendre des empreintes. Quand tu poses la question à savoir pourquoi prendre des empreintes, ils disent non, c'est pour ton bien parce qu'il faut qu'on sache que tu es entré en Europe. À partir de là, c'est comme si tu renaissais. C'est une manière de comprendre que si tu vas ailleurs, on saura au moins par où tu es entré et tout ça. Mais après un certain temps, quand tu vas ailleurs, c'est là où tu constates que non. En fait, c'était une forme de répression, puisque réellement parlant, s'ils nous voulaient du bien, ils devaient d'abord nous parler de nos droits.
Quand est-ce que vous avez appris ce règlement de Dublin ? Ici, en arrivant à Briançon, quand est-ce que vous avez su tout ça ?
J'ai appris ce problème de Dublin le jour où je suis arrivé à Briançon. J'ai déjà fait plus d'un an en Europe. Quand je suis venu me positionner, que j'aimerais faire une demande d'asile. Et là, on me fait comprendre que non, si tu as pris des emplois en Italie, c'est que tu es en position de Dublin. Et ça, on m'explique même ce que c'est que le Dublin. Depuis tout ce temps que j'ai passé en Italie, je n'avais jamais entendu parler du Dublin.
Il est concerné par le règlement Dublin. Ce règlement européen impose de laisser ses empreintes dans le premier pays par lequel les migrants arrivent en Europe. Dans ce même pays, ils sont contraints de faire leur demande d'asile. Une disposition contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui considère que chacun peut faire sa demande d'asile dans le pays de son choix. Selon le règlement Dublin, Destin devrait retourner en Italie pour faire sa demande d'asile.
Pourquoi tu n'as pas voulu rester en Italie ?
Il y a plusieurs hypothèses, mais la première, c'est d'abord la langue. Puisque je suis Camerounais, chez nous, il y a les langues maternelles, mais nos premières langues nationales, nous avons l'anglais, le français, pour ceux qui vivent du côté francophone, l'anglais pour ceux qui vivent du côté anglophone. J'ai grandi du côté francophone, j'ai fait des études là-bas. J'avais toujours une préférence de vivre en France. Certains amis m'ont conseillé que non, il serait mieux de rester en Italie pour un bout de temps, le temps que tu essayes d'avoir un peu d'argent qui peut te permettre de continuer le chemin. Le deuxième point en Italie, c'est ce problème de racisme. Et je l'ai vécu plusieurs fois en Italie. La première fois, je suis allé dans une boutique. À la sortie, le monsieur se lève, il prend du parfum. Il commence à mettre un peu partout dans la boutique. La première fois, je n'ai pas compris. C'est la deuxième fois que j'ai compris, puisque je suis revenu la deuxième fois. J'arrive, je suis en train de voir la chaussure avec les yeux. Je dis, bon, je voulais prendre une chaussure. Je lui dis, bon, je voulais une chaussure pour le sport et tout. Et tout. Il me dit, non, on ne vend pas les chaussures pour sport ici. Il n'y en a pas.
Mais je regarde, je dis, mais c'est comme si... Il dit, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et cette fois-là, quand je ressors, il remet encore du parfum. La deuxième fois, c'était à l'église. Le monsieur, lui, il était assis. Je viens lui dire, pour la question à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un assis là? Il me dit oui. Du coup, je m'en vais m'asseoir ailleurs. On finit l'église sans que quelqu'un ne s'asseye. La deuxième fois, je suis venu m'asseoir à côté d'une fille. Elle s'est carrément, elle s'est levée. Elle a changé de place.
Alors que vous croyez en le même Dieu?
Oui.
Ouais.
Oui. Elle se levait, elle a changé de place.
Ouais.
Et aussi, dans les camps où on vivait, on n'était pas assez bien traités. Il y avait beaucoup de cas. Peut-être tu as un problème de santé. Tu vas, comme j'ai eu un ami qui avait un problème de santé, il avait mal à la dent. Tu viens, on te dit oui, il faut qu'on t'amène à l'hôpital. Tu pars, le docteur te dit non, on va te donner le rendez-vous dans un mois. Tu as mal à la dent, là, on te donne le rendez-vous dans un mois. On ne te donne pas un médicament pour calmer la douleur, rien du tout. On te dit non, il faut revenir dans un mois. Mais là, c'est inhumain. C'est inhumain. Ça nous a fait comprendre que bon, on n'était pas les bienvenus. On a dit bon, il faudrait mieux qu'on aille se trouver mieux ailleurs, là où déjà je peux dire bonjour, là où je peux dire le dialogue est réciproque.
Ouais.
Tu parles, j'entends, je parle, tu entends. Raison pour laquelle je me suis rendu en France.
D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi Briançon alors?
Ce n'est même pas pourquoi Briançon, parce que en réalité, quand tu décides de te rendre quelque part, tu dois prendre des renseignements. Tu appelles des gens, tu leur poses des questions. Comment je peux faire pour arriver à tel endroit? Celui-ci a quelqu'un qui est déjà là. Il te propose des idées. Et ensuite, toi, tu choisis quelle sera la bonne. On m'a proposé plusieurs idées et plusieurs routes. Il y a certains qui m'ont dit, passe par Ventimiglia. Et tu traverses la montagne. Au niveau de ces montagnes, il y aura des descentes qui seront tellement risquées qu'il y a certaines personnes qui tombent souvent et perdent la vie. Quelqu'un d'autre m'a dit non, il faut passer par Briançon parce que déjà à Clavière, il y a une petite association là-bas qui s'occupe des gens. Déjà là-bas, ils peuvent t'aider. Le temps que tu es là à réfléchir, la stratégie que tu peux utiliser pour traverser la frontière, tu peux déjà avoir où dormir, de quoi manger. Contrairement à Ventimiglia, si tu vas, ça ne réussit pas, tu rentres, tu seras obligé de retourner jusqu'à là où tu vivais. S'il faut que tu dormes, ou tu vas dormir dans la rue. La première fois, je suis quitté d'abord à Clavière aux environs de 23h. Tu fais la route en forêt et puis je suis ressorti par la route. Chaque fois que je voyais un véhicule, je me cachais et tout. Jusqu'à un certain niveau, je suis tombé sous la police. J'étais déjà fatigué. Je m'étais tellement caché. J'avais eu même une petite blessure dans la paume de main. Là, je m'étais tellement caché. J'étais déjà fatigué. J'ai dit, bon, en ce moment, c'est un peu pour me cacher. J'avance. Si la police me prend, bon, j'y retourne. Je me repose. Et puis, je vois ce que je peux faire encore par la suite. Quelques mètres plus tard, la police m'a interpellé. Nous étions trois. Il me dit, il nous pose la question à savoir, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire en France? J'ai dit, ben, c'est là où j'aimerais vivre. Aussi, en Italie, on n'avait pas beaucoup de possibilités d'avenir, donc on s'est dit, peut-être ça serait différent ici. Déjà, le fait qu'on parle français, on s'est dit que bon, si tu peux tomber devant quelqu'un de bonne foi qui décide de t'aider. Et là, il me dit, ah bon? Donc, tu viens ici parce que la France, c'est pour toi un pays où tu vas venir puiser les ressources, prendre ce que tu veux et puis t'en aller. Bon, monsieur, sache que ça ne se passe pas comme ça en France. Tu ne veux pas entrer en France parce que tu n'as pas des documents. Ce n'est pas légal d'entrer en France sans documents. Donc, je vais te ramener à la frontière. C'est comme ça qu'il nous a ramenés tous à la frontière. Et on a fait le chemin, le reste du chemin à pied.
Après avoir été refoulé une première fois par la police à la frontière du Mont-Genèvre,
Destin reste quelques jours chez Jésus, une salle paroissiale squattée à Clavière, le dernier village italien à 2 km de la frontière. Puis il tente un deuxième passage.
Et j'ai mieux réfléchi avant d'engager encore le chemin pour la deuxième fois. Je n'ai croisé personne en passant toujours par la forêt. Mais du coup, le chemin était tellement long parce que je suis quitté aux environs de 20 heures. Oui, je suis arrivé ici vers 11h30 le lendemain. Il y avait certains endroits qui n'étaient pas praticables. Tu arrives quelque part, tu constates qu'il y a un ravin, il n'y a pas de route, il n'y a pas moyen d'avancer. Du coup, il faut que tu retournes. Tu as trouvé le chemin, tu avances et puis tu retournes, tu retrouves encore le même ravin. Il faut encore retourner. Donc il y avait des chemins, tu faisais le chemin inverse à chaque fois. Oui, tu entrais souvent dans la neige est arrivée même jusqu'au niveau d'ici. Il faut tirer le pied, tout ça. Oui, au niveau du genou, il faut tirer le pied, tout ça. Et il y avait des endroits aussi glissants. Par moments, tu tombes, tu te relèves, tu continues. Souvent, on se perd même en forêt. Maintenant, le seul repère que tu pouvais avoir, c'est la route. Il faut que tu cherches comment faire pour retrouver la route. Quand je suis arrivé ici, j'ai quand même eu cet accueil à Briançon qui m'a beaucoup aidé. Puis c'est à partir de là, j'ai quand même eu dormi. On m'a donné à manger, on m'a donné de l'eau pour me laver. Oui, on m'a donné de l'eau à boire, toutes ces choses que je n'ai pas eu durant les 10 à 11 heures de marche que j'ai fait la nuit. Ça m'a beaucoup remonté. Puis j'ai trouvé des gens géniaux en France. Quand tu arrives, les gens te traitent bien. C'est comme si tu vivais déjà depuis plusieurs années. Et puis te dis, si tu n'as pas où dormir, il ne serait pas mieux d'avancer. Si tu sais que bon, tu as avancé pour aller dormir dehors, du coup tu peux rester ici le temps de t'organiser ou le temps que nous-mêmes pouvons te trouver un refuge et tout et tout. Quand tu arrives quelque part, tu salues les gens, ils te répondent. Certains gens qui viennent même vers toi souvent te saluent. Tu es en train de faire même souvent la marche en route. Quelqu'un s'arrête, c'est comment mon ami, tu veux qu'on t'accompagne quelque part.
Et le premier endroit où Destin a été accueilli à Briançon, c'est le refuge solidaire. Un lieu où Michel et Nathalie, deux bénévoles de la région, ont instauré une nouvelle tradition culinaire. On y va tout de suite.
Et comment ça va ?
Oui, ça va et toi ?
Ça va bien ?
Tranquillou ?
Ouais.
Donc on est au refuge solidaire qui a été ouvert l'été dernier, où on accueille entre 15 et 80, 100 personnes dont on prend soin quand ils arrivent, en leur donnant à manger, une bonne douche, de quoi prendre soin de soi, se reposer pour continuer la route.
Excusez-moi, il y a une tradition, attention, à 4h, 4h,
on mange du chocolat.
C'est le chocolat.
Ben, en fait, moi je travaille jusqu'à 4h15 en général, et je m'arrête tout le temps. Quand je sors du boulot, je m'arrête tout le temps. Et j'ai un peu instauré ça depuis cet automne. C'est le goûter et le chocolat. Je leur explique souvent ce qu'est le goûter en France. Et du coup, ça les fait marrer. Au fil du temps, tous aimaient beaucoup le chocolat. Et qu'il y avait quand même, pour certains, une frustration par rapport au chocolat. Genre les Ivoiriens, qui est quand même un des premiers pays exportateurs de chocolat.
Wow.
Et ils peuvent pas en manger. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter du chocolat chez eux, quoi. Voilà, c'est aussi un petit peu pour ça que cette histoire de chocolat, elle est importante aussi ici, je trouve, voilà. En général, quand je mets ce dont on a besoin dans la bouffe, chocolat revient toujours très vite. Il y a le riz, les tomates, les oignons, chocolat.
Lamine, il rigole. Pourquoi tu rigoles, Lamine, en mangeant les raisins de Corinthe? Hein? C'est bon, les raisins de Corinthe?
Ah, mais t'as un peu mal aux cheveux aujourd'hui, non? T'aurais pas un peu mal aux cheveux? Tu sais ce que ça veut dire avoir mal aux cheveux?
Non.
Ouh, quand on a mal aux cheveux, ça veut dire qu'on a un petit peu mal à la tête, parce que la veille, on a un petit peu... Si tu vois ce que je veux dire. Donc t'as un peu mal aux cheveux aujourd'hui.
T'as mal aux cheveux, quoi.
Ah, c'est ça.
Vraiment, j'invite tout le monde à passer au refuge, parce que c'est quand même un endroit assez exceptionnel. Ici, passent des très belles choses. Moi, c'est ma deuxième maison. D'ailleurs, il fut un temps où je passais plus de temps ici que chez moi. Et c'est vraiment un bel endroit et tout le monde est bienvenu pour boire un thé avec les frères, discuter. Si on n'est pas obligé de venir faire du ménage, on n'est pas obligé de venir faire la cuisine, on peut juste venir pour discuter avec eux, prendre du temps, faire un jeu, voilà. On n'est pas obligé de les harceler de questions, par contre, quand on vient passer du temps. Parce que ça peut être très, très intrusif dans leur vie. Ils parlent seulement s'ils ont envie, mais on peut parler de plein de choses, hein, Lamine ?
Ah oui.
On peut parler de plein de choses. Ah, voilà Nathalie, qui vient voir son petit protégé qu'elle a sauvé de la montagne. Non, qu'elle a récupéré dans Briançon.
Je crois que c'est mon père.
On se dit africain et fier des lettres. Immigré sur la terre du colon. Pas moi français, je maîtrise les lettres. Patrie d'Afrique où la gloire, c'est ce qu'on se disait. La vie des rêves, les réseaux sociaux et les business. Maman a dit qu'en Europe, y'a pas de guerre, c'est bien. Mais pour l'instant, c'est la reste. Si t'as pas peur, je vais bien. Je tente ma chance au pays des droits de l'homme. Pays de la liberté, là où les lois sont plus grands que les hommes. Crois-tu que ça nous plaît de courber les chines? Pas longtemps, on était rois. Aujourd'hui, on court derrière la Chine. On traite de sangsues, de profiteurs. Mais l'origine du flux migratoire, c'est le soutien des dictateurs. Ils mettent des pontins qui entretiennent la France-Afrique. Qui tue le peuple, crée la misère et l'antipathie. Si je brave la mer, c'est pas pour la déco. Non, comment dis-tu, chacun chez soi, si chez moi t'as le droit de veto. On vient prendre ce qui nous pille, mais on rentre sous le
monde arabe.
On veut plus de la France-Afrique, mais la politique de Sankara.
Politique de Sankara.
Bien sûr que je suis Charlie, mais qui va pleurer pour Kinshasa?
Qui va pleurer pour Kinshasa?
Au pays des merveilles, on se fait la guerre pour du Nutella.
La guerre.
Je ne me sens pas concerné par le rap de France et pas d'identité, mais c'est moi le blédard. Africain du dimanche, les négros ont le choix. Mais je ne peux pas venir de Brazzaville et me battre pour le 9-3. Je vois mes frères convertis faire l'autruche, qui ignore l'esclavage en Libye et se défonce pour la Palestine. Unité africaine est un atout. Mais si le Maghreb veut faire ça, nous frères, on devra faire sans eux. On devra faire le point entre religion et raison, crever l'abcès. Pour faire naître une nouvelle réflexion. Un nouveau type d'Africain, courageux et fier. Je pense que même Dieu est pour la dignité de mes frères. Qu'on dise les choses avec honneur. Être Africain, faut le vouloir. C'est au-delà de la couleur. 237, je porte le brassard. Je sais qu'il me boycotte, mais j'ai plus de talent que les 3/4. On vient prendre ce qui nous pille, et on rentre sous le monde arabe.
On rentre sous le monde arabe.
On veut plus de la France-Afrique, mais la politique de Sankara.
Politique de Sankara.
Bien sûr que je suis Charlie, mais qui va pleurer pour Kinshasa?
Qui va pleurer pour Kinshasa?
Au pays des merveilles, on se fait la guerre pour du Nutella.
On se fait la guerre pour du Nutella.
Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun.
Peut-être un jour rentreront-ils sous le Mandara, ce massif montagneux entre Cameroun et Nigeria. À l'instant, on vient d'entendre dans le tarpin sur la planche le rappeur camerounais qui vit à Lyon, l'Egrégor, et le titre s'appelait « Lettre aux Africains ». Que vous écoutiez Radio Grenouille ou Radio Zinzine, plus que jamais, il y a du tarpin sur la planche.
Oui, car à l'heure où nous enregistrons cette émission, les irresponsables de l'Union Européenne jonglent d'indignité avec l'Aquarius, le navire de l'association SOS Méditerranée qui sauve des exilés au large de la Libye. Déchu de son pavillon sur pression de l'Italie, interdit de débarquer des exilés dans les ports européens, il pourrait finir par revenir à son port d'attache qu'est notre belle cité de Marseille. S'ouvrira-t-elle pour autant au refuge des damnés arrachés à leur terre ?
Même s'il est heureux ici, Destin, vous avez entendu le récit, a été contraint de s'installer ici, à Marseille, installé par le jeu inhumain des règles européennes. D'abord assigné à résidence en vue de son expulsion en Italie, la procédure qui le concernait a finalement été cassée pour vice de forme. Alors, il ne risque plus le renvoi soudain, mais doit toujours continuer d'aller pointer régulièrement à la préfecture. Supporter de l'Olympique et passionné de cette ville qui nomme Afrique de la France, Destin aimerait se projeter ici. Mais la menace du retour en Italie lui pèse toujours. Affaire peut-être à suivre dans le tarpin.
D'autres compagnons de destin sont encore moins à l'aise que lui aujourd'hui. Sans ressources et sans logement, ils sont des dizaines à squatter sous la halle Puget devant le local de la PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Mais cette institution n'est pas en mesure de les aider. En sous-effectif, soumis aux pressions de leur hiérarchie et parfois à des violences de la part de demandeurs d'asile excédés par les dysfonctionnements qu'ils subissent, les salariés de cette plateforme gérée par Forum Réfugiés sont en grève.
Voilà où mène la jean-foutrerie cynique de quelques personnages politiques. L'Aquarius, lui, a pris la direction de Malte pour débarquer les exilés qu'il avait à son bord. À l'heure où il était encore question de sa possibilité de venir à Marseille, eh bien, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, commentait. Pour l'instant, la France dit non, parce que si nous voulons avoir une politique migratoire cohérente, il faut respecter les règles européennes. Par ce sens des responsabilités, avoir une politique migratoire cohérente, c'est laisser les indésirables se noyer en Méditerranée ou être réduits en esclavage en Libye. Alors, que choisir ? Pour nous, ce sera un voyage à la nage jusqu'en Libye, offert à messieurs Macron, Colomb et Le Maire.
Du tarpin sur la planche.
Sur la planche.
Du tarpin sur la planche.
À écouter avec ses oreilles.
Exploration sociale et sonore.
Et sonore.
Allez, on change de sujet avec un jean-foutre beaucoup plus joyeux. C'est Thomas qui, cet été, est parti en vadrouille à Barcelone. Et c'était au moment de la Festa Mayor qui se tient dans chaque quartier. Et alors Thomas, à cette occasion-là, est tombé au détour d'une ruelle sur la fête alternative du quartier de Raval. Un stand mystérieux s'y était construit et ce stand proposait une attraction qui détonne. On vous propose une rencontre avec une des tenancières de ce stand.
Nous sommes dans le quartier du Raval, à Barcelone, et plus précisément, nous sommes à l'Agora Juan Andrés Benítez, un lieu abandonné qui est squatté par des habitants du quartier. Il a été transformé en espace social, c'est comme un petit jardin. C'est un endroit où des gens ont planté des choses. Il y a régulièrement des activités pour des gens du quartier, comme des événements politiques, de la musique ou des activités sociales pour les habitants. Et aujourd'hui, c'est la fête du quartier, toute la semaine, du quartier du Raval. Donc, à cet endroit, il y a la fête alternative du quartier. Beaucoup d'organisations différentes ont créé leur propre espace où ils font des actions, de la musique, de la politique. Aujourd'hui, c'est la musique, des DJs, la fête. Voilà.
Ton stand est vraiment unique. Alors, de quoi ça traite ? Et qu'est-ce que c'est que votre projet dans ce quartier ?
Eh bien, on s'est un peu inspiré du traditionnel stand de tir dans les foires, où d'habitude on peut tirer sur des animaux et d'autres choses stupides. Et on voulait trouver une façon de combiner la colère contre les politiciens et la police. Et ouais, les choses qui peuvent vous fâcher tous les jours dans votre vie normale. Et donc, on a fait un stand de tir avec des portraits, surtout des politiciens. On a essayé de rendre ça international, on a essayé de rendre ça à la fois historique, actuel, et aussi d'embrasser à la fois la culture populaire et la politique. Et tu sais, beaucoup de choses différentes. Alors ce que vous faites, vous prenez un verre et vous pouvez tirer sur une personne que vous voulez tuer.
Si vous atteignez le point rouge sur son front, vous pouvez avoir un autre shot.
Oui, un autre shot en boisson ou avec le... comment on dit ? Avec l'arme, avec une carabine à air comprimé. C'est un jeu. C'est juste pour, tu sais, évacuer ta colère, s'amuser.
Et comment s'appelle le stand ?
Le stand s'appelle Pim Pam Poum. Et il y a un slogan qui dit : si ce n'est pas vous, qui donc ? Si ce n'est pas aujourd'hui, alors quand ?
Et tu penses que ça permet aux gens de faire de la catharsis, d'être moins en colère, ou de s'impliquer en politique en discutant avec des gens, genre, mais qui est-ce type, je le connais pas, pourquoi tu le tires dessus, quelque chose dans le genre?
Peut-être, ce n'est pas l'objectif principal, je pense, mais on constate que ça arrive. Et aussi, les gens se rendent compte qu'ils aiment tirer et ne le savaient pas avant. Généralement, les gens passent juste un bon moment, et c'est notre but premier. Mais aussi, les gens connaissent les visages des politiciens actuels qui détruisent nos quartiers. Construisent une Europe forteresse et commettent des génocides dans le monde.
Lequel tu choisirais si tu devais tirer?
Là maintenant, Erdogan est ma victime préférée.
Tu peux nous dire pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il a encore mystérieusement gagné les élections, il commet un génocide au Kurdistan et je pense qu'il faut vraiment qu'il dégage. Il était fortement réprimandé en Espagne de détériorer l'image du roi d'une quelconque façon. Récemment, il y a eu le procès de quelqu'un qui avait brûlé une photo du roi. Et à la fin, il a été décrété que ce n'était pas illégal. Donc, il est sorti libre du tribunal. Il semblerait que maintenant, on puisse maltraiter l'image du roi en Espagne.
C'est une bonne nouvelle. Mais vous ne pouvez pas boire de bière dans la rue?
Non.
Et vous ne pouvez pas organiser une manifestation?
Non. But you can burn a photo of the
roi. Mais on peut brûler une photo du roi.
C'est déjà un bon point. Qu'est-ce que vous faites de l'argent? Le shot est payant et tu m'as dit que c'était à dessein.
Oui, on collecte toujours l'argent avec un objectif antirépressif. On a collecté de l'argent pour plusieurs procès contre des mouvements radicaux et aujourd'hui on récolte de l'argent pour l'autodéfense féministe. Pardon. Aujourd'hui, on récolte de l'argent pour un collectif d'autodéfense féministe à Mexico.
Et où est-ce qu'on peut vous trouver?
Dans les fêtes de quartier. Vous ne savez jamais.
Seulement à Barcelone?
Généralement, oui.
Merci. Un dernier mot? Quelque chose que tu voudrais dire?
Je pense que c'est bien de politiser la fête. On peut s'amuser et faire quand même quelque chose d'utile.
Pour apporter des précisions, ce terrain en friche où se trouve désormais l'Agora est occupé depuis le 5 octobre 2014. Il est nommé ainsi en la mémoire de Juan Andrés Benítez, qui vivait dans la rue Aurora. C'est dans cette rue qu'il vivait et c'est aussi dans cette rue qu'il est tombé, sous les coups de la police, sans véritable sanction de la justice. Comme à Marseille, Barcelone subit les conséquences de la spéculation immobilière et du développement touristique, au détriment des habitants. L'Agora est donc un espace où les habitants peuvent s'organiser eux-mêmes, afin de résister tous ensemble.
Allô ? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte.
Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre.
Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les toits. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mains moites. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les toits. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mains moites. Tu sais, bosse, bosse, bosse. Parce qu'il faut de la caillasse, c'est le fils qui prime. Et ça te fout la déprime. Tu veux en
Et vous êtes toujours à l'écoute du Tarpin sur la planche, et c'est l'heure du coup de bure.
Coup de bure.
Le petit village de Bure se trouve dans le département de la Meuse. 80 habitants, des champs de céréales, une salle des fêtes toute neuve et, dans quelques années peut-être, une poubelle nucléaire. C'est ici, à 500 mètres sous terre, que l'industrie atomique veut stocker ses déchets les plus dangereux. Des produits qui resteront radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Mais qui voudrait ça chez lui ? Pas grand monde. Alors, pour faire accepter le projet, l'État sort le carnet de chèques et bien entendu, la matraque. Mais certains autochtones résistent encore et toujours à l'envahisseur. Dans cette deuxième saison du Tarpin sur la planche, nous allons vous proposer chaque mois de faire une petite balade dans la région de Bure. Manière d'amener jusqu'à vos oreilles des échos de cette lointaine bataille du nucléaire.
Et première étape ce mois-ci avec une histoire de lobbies. Notre interlocuteur s'appelle Claude Kaiser, il est conseiller municipal à Ménil-la-Horgne, un petit village proche de Bure, dans la Meuse. Et ça fait plus de 20 ans déjà qu'il se bat contre la future poubelle nucléaire. En tant que membre de l'association des élus au projet, des élus opposés au projet, pardon, il a tenté de convaincre jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, mais en vain. L'histoire qu'il nous raconte, aujourd'hui, remonte à 1998, une époque où le Premier ministre s'appelait Lionel Jospin et avait sa carte au Parti Socialiste.
J'étais reçu en 1998 avec deux autres de mes collègues au cabinet de Lionel Jospin, qui venait d'être élu Premier ministre, avec donc la ministre verte Dominique Voynet à l'environnement. Donc là, on avait repris espoir. Surtout moi j'y croyais, j'avais voté pour eux. Disant, là, avec ces gens-là, ils vont quand même nous écouter et puis comprendre qu'il ne faut pas le faire, quoi. Donc on a eu des audiences dans tous les ministères, mais chez le Premier ministre, on a été reçu par sa conseillère en environnement, qui nous a écoutés pendant quelques minutes, mais pas très longtemps. Puis qui a dit, écoutez, arrêtez, vos arguments, on les connaît, et ce sont de bons arguments. Ce sont de bons arguments, elle les a développés à notre place. Oui, il ne faut pas enfouir, c'est la pire des choses. Bien sûr qu'il faut laisser une chance à la science de trouver ultérieurement, il faut les laisser en surface, près des lieux de production. Si on enfouit, on a perdu. Enfin bon, c'est trop dangereux, le projet n'est pas sûr. Enfin bon, tout ce qu'on aurait pu dire, nous. Et elle a terminé en disant... je suis d'accord avec tous vos arguments, et je vais même vous dire mieux, Lionel Jospin est d'accord avec vous, on en a discuté avant la réunion, il est ok, et rien à redire sur votre argumentation. Alors à ce moment-là, je lui dis, madame, du coup on ne va pas avoir Bure. Elle dit, ah si, pourquoi? Et c'est là qu'elle nous a expliqué ce que c'était que le lobbying, en prenant exemple sur nous, nos petites communes. Voilà, si une entreprise très polluante veut s'installer chez vous, votre première réaction, ça va être de dire non. Mais finalement, avec les arguments sonnants et trébuchants, les emplois créés, l'accord de certains conseillers municipaux et tout ça, vous allez peut-être finir par dire oui, surtout si cette pression, elle est exercée par plein de gens. Et un gouvernement, c'est pareil qu'une commune. Aujourd'hui, désolé, mais Lionel Jospin, il n'a pas le rapport de force pour arrêter Bure. On a Cogema, Framatome qui sont tous les jours à notre porte. Ils veulent le trou de Bure pour pouvoir dire qu'ils maîtrisent la filière nucléaire de l'amont jusqu'à l'aval. Que ce soit faux ou pas, ils veulent ça. C'est très important pour eux. Et ils nous harcèlent pour qu'on le fasse. Puis dans le gouvernement, vous avez des gens comme M. Fabius, comme M. Strauss-Kahn qui sont très liés aux industriels du nucléaire et même financièrement. Donc qui poussent Lionel Jospin pour qu'il accepte. Et Lionel Jospin, il peut pas dire non dans l'état actuel du rapport de force. Alors à ce moment-là, je lui dis, madame, je me souviens de la question que je lui ai posée. Vous êtes en train de nous dire que le Premier ministre de la France, il va donner son accord à un projet dont il réprouve les conséquences pour l'humanité? Et dans les yeux, elle me répond oui. Je lui dis, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Si, allez, il y a peut-être une chose que vous pourriez faire. Et elle met ses deux mains comme une balance, comme ça. Elle dit, vous nous mettez 10 000 personnes dans la rue. Et là, le rapport de force s'équilibre un petit peu. On peut commencer à discuter. Je dis, mais madame, comment voulez-vous qu'on vous mette 10 000 personnes dans la rue en Meuse, un département de 90 000 habitants? Je dis, mais c'est bien pour ça que la Meuse a été choisie. Au revoir, messieurs.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du président de la République,
Je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres.
Chères auditrices et auditeurs, on vous aime toujours aussi fort et on espère que vous êtes enjaillés en notre compagnie, malgré nos gens foutreries, lors de cette émission dédiée au J, avec ses jeux de mots en tout genre.
Et vous avez de la chance, on vous a épargné le jacadis.
Si vous avez rejoint cette émission en cours de route ou que vous voulez écouter les précédentes, on vous invite à aller sur notre page Facebook et sur notre page Arte Radio Audioblog. Vous y trouverez également la bande-son et des bonus. Alors, on se retrouve le mois prochain pour un tarpin sur la planche placé sous le signe du K, avec comme thématique le cas des identités, et notamment celui des Kanaks, avec le référendum imminent. Il y aura également une nouvelle chronique radiophonique présentée par Adrien.
Un bonbon sonore qui ravira vos papilles.
On remercie Chloé qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, Laure pour son soutien inébranlable, Jonah pour son oreille attentionnée, Jilai pour la technique, Radio Zinzine et Radio Grenouille pour la diffusion. On espère réussir à vendre finalement notre clip promotionnel à la région pour remplir nos caisses avec une botte secrète type jante d'aluminium chromé. J'ai nommé Jean-Michel Célébrité.
Eh, c'est vrai que celui-là, j'avais pas pensé à le sortir. C'est le Marseillais Jean-Jacques Goldman, bien sûr, avec lequel on vous quitte sur l'air de Je marche seul.
Joie et bonheur sur vous, on lâche rien parce qu'il reste du tarpin
sur la planche.
Et salut Jean-Michel.
Je m'en prie.